CIBL, au cœur de la culture.
Et bonjour tout le monde, ici Alexandra Guélil, heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Angle Droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducaloi et CIBL pour vous parler de droit autrement. En studio avec moi aujourd'hui, Alexandra Magazin qui va nous parler d'un jugement important à l'aube de la journée de la Terre le 21 avril prochain. Bonjour Alexandra.
Bonjour Alexandra.
Le sujet exactement c'est quoi?
Oui, donc la Suisse a été condamnée pour son manque d'action face au changement climatique. C'est une décision historique qui est sortie la semaine dernière de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une décision qui s'appliquera dans les 46 États membres du Conseil de l'Europe. Donc un très grand impact.
Une chronique à écouter avec intérêt. Aussi, Richard Goldman, qui est aussi avec nous en studio. Bonjour Richard.
Bonjour Alexandra.
Le sujet est-il plaisant aujourd'hui?
Oui et non. C'est inévitable. La date limite pour produire les déclarations d'impôts était la fin du mois. Et donc, je vais partager quelques infos d'intérêt particulier pour les personnes à revenu modeste.
C'est quand même plaisant. Merci Richard, on a hâte de t'écouter. Et notre invité du jour nous parlera de la nouvelle loi sur les renseignements personnels ou la loi 25 pour les intimes. Donc il s'agit de Maître Simon Duperron, avocat au cabinet Borden Lagner Gervais ou BLG et spécialisé en droit à la vie privée. Angle droit, c'est parti. Et on commence avec les actualités de la semaine proposées par Jason Paré. Bonjour Jason.
Bonjour.
Alors, première actualité politique, on continue de parler du partage des champs de compétences. Certains médias parlent d'une intrusion du gouvernement fédéral.
Des médias et des politiques, oui, parce qu'on parlait la semaine dernière de Québec, hein, du gouvernement du Québec qui reprochait au fédéral de ne pas respecter leurs champs de compétences avec plusieurs mesures qui ont été annoncées pré-budgétaires, budget qui va être dévoilé aujourd'hui. Il n'y a pas juste Québec, en fait, qui formule ce genre de critique. Il y a aussi le cas de l'Alberta. L'Alberta propose d'adopter une loi qui lui permettrait de mettre son veto à tout accord conclu entre les municipalités et le gouvernement fédéral. On peut lire dans un article de la presse canadienne que la première ministre Danielle Smith soutient que le gouvernement albertain s'inquiète depuis longtemps de l'intrusion du fédéral dans les champs de compétences provinciales. Les récents accords entre Ottawa et certaines municipalités liées au logement seraient la goutte qui a fait déborder le vase, a-t-elle affirmé. Selon la politicienne albertaine, ces accords obligent les municipalités à modifier leurs règles de planification et de zonage pour obtenir l'argent fédéral, ce qui fait, selon elle, que seulement certaines villes obtiennent des fonds. Le projet de loi déposé par le gouvernement du Parti conservateur uni de Mme Smith exigerait que tout accord entre Ottawa et un organisme réglementé par l'Alberta soit approuvé par le gouvernement provincial. Cela inclurait notamment les établissements d'enseignement postsecondaire, les conseils scolaires, les autorités sanitaires et les agences contrôlées par l'État.
Seconde nouvelle, Québec veut imposer jusqu'à 1 500 $ d'amende pour les menaces contre les politiciennes et politiciens, un sujet de plus en plus d'actualité, Jason.
Oui, ça fait quelques années déjà qu'on parle du harcèlement et de la violence que subissent les élus, que ce soit au municipal ou au provincial. On peut penser aux menaces récentes qui ont visé le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Un homme de 40 ans a été arrêté par la police en mars pour avoir menacé d'exterminer la famille du chef du PQ s'il ne changeait pas son discours sur l'immigration. Pour contrer ce phénomène inquiétant, Québec a déposé le projet de loi 57 visant à protéger les élus et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. Cette loi prévoit plusieurs mesures, dont des amendes de 500 à 1 500 $ pour toute personne qui menace, intimide ou harcèle un élu municipal ou un député de l'Assemblée nationale. Des amendes de 50 à 500 $ pour toute personne qui causerait du trouble lors d'une séance d'un conseil municipal. Également, une interdiction de publier des messages harcelants en ligne. À ceux et celles qui craignent que le projet de loi serve à museler les opposantes et les opposants des élus, particulièrement sur la sphère municipales. La ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a assuré que la liberté d'expression ainsi que les critiques légitimes ne seront pas brimées. Le projet de loi 57 permettrait aussi à la Cour suprême d'accorder d'urgence, à la demande d'une ou d'un député, une injonction pour ordonner à une personne de ne pas se trouver dans le bureau de circonscription, de cesser de communiquer avec l'élu et de cesser de tenir des propos ou de poser des gestes qui entravent l'exercice de ses fonctions.
Troisième actualité, le Premier ministre du Québec et celui de la France ont signé une déclaration commune pour renforcer la langue française et son usage.
Oui, à la suite de la visite au Québec du Premier ministre français Gabriel Attal, on a surtout parlé de son discours à l'Assemblée nationale vendredi où il a souligné, entre autres, l'importance de la laïcité pour la protection des valeurs démocratiques, soutenant, je cite, que la laïcité est la condition pour vivre ensemble. Ce qui est passé un peu plus sous le radar, c'est le document que François Legault et Gabriel Attal ont signé samedi afin de réaffirmer l'importance de la langue française pour les deux nations. La dernière déclaration du genre remonte à 2016. Non seulement la langue française est intrinsèquement liée à la culture et à l'économie, elle représente aussi un vecteur de cohésion sociale et d'intégration, ont affirmé les premiers ministres du Québec et de la France. Face aux grandes plateformes numériques qui proposent majoritairement du contenu en anglais, les deux hommes politiques souhaitent renforcer la découvrabilité et la valorisation des contenus culturels de langue française en ligne, mais également ceux liés à la science, à l'éducation et à l'économie.
Merci beaucoup, Jason, pour ce tour d'horizon de l'actualité. À très bientôt.
Mon plaisir.
Pas plus tard que la semaine dernière, un peu plus de 140 clientes et clients de la Banque de Montréal ont affirmé s'être fait dérober 1,5 million de dollars suite à des virements frauduleux sur leur compte bancaire ou sur leur marge de crédit. Cet incident est de loin d'être le seul dans la dernière année. Plusieurs brèches de sécurité ont pu être constatées. Ça fait les manchettes. C'est l'occasion de parler aujourd'hui de la nouvelle loi sur les renseignements personnels, appelée aussi la loi 25, avec notre invité aujourd'hui, Maître Simon Duperron. Bonsoir. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation.
Merci à vous d'être avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Borden Ladner et Gervais, BLG pour les intimes et spécialisé en droit à la vie privée. La première des questions que je vous pose, c'est un retour sur la raison d'être de cette loi. Pourquoi ce besoin de se préoccuper des renseignements personnels?
Bon, mais je pense qu'on voit qu'avec le numérique, avec l'Internet et la prolifération des données dans l'environnement web, il y a eu un besoin de mettre à jour, de moderniser notre cadre juridique existant. Donc, on avait déjà des lois qui s'appliquaient en matière de protection des renseignements personnels, mais la loi 25 est venue les mettre à jour. Là, on en a une dans le secteur public et une dans le secteur privé. Les mettre à jour pour renforcer les protections, pour également permettre qu'il y ait des amendes, donc des sanctions qui puissent être imposées pour que les lois aient du mordant et également pour améliorer le contrôle des individus autant que possible, notre contrôle sur nos renseignements personnels.
Maître Duperron, vous venez de le dire, on sépare ou on traite séparément les secteurs privés et publics. Pourquoi?
Eh bien, en fait, au départ, la première loi en matière de protection des renseignements personnels était dans le secteur public dans les années 80, qui est devenue comme une extension à la loi sur l'accès à l'information que les journalistes utilisent quotidiennement pour faire des demandes d'accès à l'information. Puis, dans les années 90, en fait, le Québec a été la première juridiction au Canada à adopter une loi du secteur privé spécifiquement pour la protection des renseignements personnels. Mais on était encore dans un univers qui était très papier. Donc, la loi faisait référence à des notions de dossier écrit et des choses comme ça. Avec la loi 25, qui a été adoptée en 2021, entrée en vigueur pour la majeure partie en 2023, on est venu vraiment mettre à jour avec... pour l'écosystème et pour le monde dans lequel on vit, qui est un monde ultra connecté. Mmh.
Alors, si j'ai bien fait mes recherches, comme on dit, cette loi s'inspire des outils législatifs européens. Pourquoi on s'inspire souvent des outils européens alors qu'on est en Amérique du Nord?
Tout à fait. Je pense que, bon, là, un collaborateur vient de faire référence à Gabriel Attal, le premier ministre de la France, qui est venu livrer un discours. On dirait qu'il y a, parfois, il y a un réflexe québécois là, de regarder un peu du côté de notre cousin européen, français, pour voir comment ils ont fait. Au niveau de la protection des données, l'Europe a été la première juridiction à travers le monde à adopter ce qui est considéré comme une loi moderne en matière de protection des renseignements personnels, donc une loi qui est adoptée à l'époque d'Internet, à l'époque des technologies qu'on connaît. Donc, c'est devenu rapidement l'étalon de mesure en matière de protection des données. Et il y a quand même une tradition très forte de réglementation en Europe. Donc, il y avait beaucoup de règles, de nouvelles obligations, de nouveaux droits également conférés aux individus, dont plusieurs juridictions à travers le monde ont voulu s'inspirer, notamment le Québec.
Alors, la loi 25 est un processus, on le dit et on le répète, dans le sens où plusieurs étapes ont été nécessaires hein, pour la mettre en place, toujours dans un souci de modernité. Donc, pourquoi y aller étape par étape, bouchée par bouchée, j'ai envie de dire?
Mais je pense que c'est compte tenu de l'ampleur de la réforme. Il y a énormément de nouvelles obligations et de nouveaux éléments qui ont été introduits par la loi 25. Puis, le législateur a décidé d'y aller par étape pour prioriser les éléments les plus importants, je pourrais soumettre. Donc, d'abord, la question des incidents de confidentialité a été qu'est-ce qui est rentré en vigueur le plus rapidement, donc au mois de septembre 2022, où est-ce que la notification et la déclaration obligatoire des incidents de confidentialité, c'est quoi un incident de confidentialité? C'est essentiellement quand il y a un accès ou une utilisation non autorisée de vos renseignements personnels. Donc, ça peut être soit par une partie externe, un cyberattaquant, là, un bon vieux hacker là, dans un sous-sol où on ne sait pas trop où est-ce qu'il peut se situer, ou mais ça peut également être de l'interne, là, des gens qui accèdent à des bases de données qui n'auraient pas en vertu de leur fonction droit d'accéder et qui peuvent parfois même exfiltrer là, les renseignements sur des supports externes. Mm-hmm. Donc, tout ça constitue des incidents de confidentialité. Puis avant la loi 25, quand ça arrivait, il n'y avait pas un cadre juridique précis au Québec, donc pas d'obligation précise de mitigation des risques, pas d'obligation d'aviser les individus concernés, pas d'obligation de notifier la commission d'accès à l'information, qui est le régulateur qui est responsable d'appliquer la loi. Maintenant, on a ça et ça permet de la transparence, ça permet d'améliorer les mesures de sécurité, ça permet également aux individus d'être informés et de pouvoir être plus vigilants. Vous avez mentionné là, un exemple d'incident là, au départ.
J'aimerais, hein, Maître Dupireux, qu'on revienne à la base hein, pour nos auditrices et auditeurs. Actuellement, quand on se promène hein, sur le web et certains sites officiels, on a une fenêtre qui apparaît qui nous demande notre autorisation de récolter des données ou des informations personnelles. Est-ce que c'est dans le cadre de cette loi 25?
Oui, en fait, c'est un très bon exemple d'une mesure, une parmi des nombreuses mesures de la loi 25, une mesure qui est venue créer une obligation concrète et qui se répercute maintenant dans notre quotidien, les fameuses bannières de consentement sur les sites web. En fait, si on veut résumer, la loi 25 oblige d'obtenir une activation proactive quand on utilise des technologies dites de profilage ou de localisation. Par exemple, le GPS est également un autre exemple. On a maintenant quand on doit activer le GPS, on reçoit ce qu'on appelle un pop-up pour l'activer. Bien, c'est un peu la même chose pour les témoins de connexion qui ont été considérés là, pour la plupart comme des technologies de profilage. Donc, tous ces témoins, ces marqueurs qui sont déposés sur votre appareil pour pouvoir suivre votre activité afin d'améliorer des fonctionnalités, de personnaliser des publicités surtout. Donc, ces petites technologies-là ont été visées par une obligation nouvelle de la loi. Et ça a forcé là, toutes les entreprises, même les organismes publics qui ont une présence web, à venir implanter techniquement ce nouveau mécanisme-là. Je peux vous dire que ça nous a gardé passablement occupés dans les dernières années.
On veut bien le croire. Alors, pour éviter que ça passe sous le radar, cette loi prévoit aussi hein, des responsabilités pour vous et moi quand on retire nos casquettes professionnelles, donc la responsabilité des individus. Est-ce qu'on en parle rapidement?
Eh bien, en fait, les individus, c'est sûr que la notion de responsabilité est très liée au consentement parce que l'axiome le principal de nos lois de protection des renseignements personnels, c'est le consentement. Donc, le but, c'est de donner la possibilité, la faculté de choisir aux gens. Donc, avec le consentement vient une notion de responsabilité, n'est-ce pas? Puis, il y a également des nouveaux droits qui ont été introduits. Je ne sais pas si c'est vers là que vous voulez aller. Mais au niveau des nouveaux droits, c'est quand même des droits qui peuvent être intéressants.
Est-ce qu'on peut donner un exemple?
Oui, ben, par exemple, le droit d'accès, en fait, existait déjà. Il n'a pas été introduit par la loi 25, mais c'est quelque chose qui est parfois méconnu. Donc, toute entreprise, tout organisme public qui a vos renseignements personnels, votre nom, un dossier à votre sujet, vous avez le droit de demander accès et sous réserve de certaines exceptions, cette organisation-là doit vous le communiquer. Mais plus récemment, avec la loi 25, il y a deux autres nouveaux droits là, très inspirés de l'Europe qui ont été introduits. Donc, premièrement, un droit à la désindexation, un droit de faire retirer de certains moteurs de recherche des hyperliens associés à nos noms et un droit à la portabilité qui consiste à retirer là, un peu nos données dans un format plus technologique. Également un droit par rapport aux décisions prises par l'intelligence artificielle, un petit peu plus complexe, mais il y a un nouvel encadrement là, par rapport à ça.
Maître Duperron, je sais que je risque de vous sortir de votre zone de confort en tant qu'avocat, mais si je vous pose une simple question, est-ce que cette loi suffit-elle à maîtriser les avancées technologiques et à éviter d'autres brèches de sécurité? Est-ce qu'on a une réponse tranchée à ce sujet?
Suffire, je pense que non. Je pense que c'est dur de suivre législativement le rythme des technologies. Par contre, c'est un excellent pas en avant pour responsabiliser davantage les organisations. Moi, je le vois dans ma clientèle. Je vois que c'est un enjeu qui est vraiment pris à cœur par les clients, la protection des renseignements personnels, et également renforcer le contrôle des individus au moyen de certaines obligations, mais c'est un contrôle qui demeure toujours d'une certaine manière imparfait, considérant que dans le monde connecté, plusieurs modèles d'affaires, plusieurs modes de services sont axés sur la collecte de données, et ça peut être difficile de s'en passer.
Maître Simon Duperron, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes avocat au cabinet Borden Lagner Gervais et spécialisé en droit à la vie privée. Merci.
Merci.
Un sujet qui a fait les manchettes la semaine dernière. La Suisse a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son manque d'action face au changement climatique. Pour en parler avec moi, Alexandra Magazin, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer qui a lancé cette action?
Oui, donc c'est une association qui s'appelle la Verein Klimaseniorinnen Schweiz, désolée pour mon allemand. C'est une association de femmes suisses qui a été mise sur pied, dans le fond, pour promouvoir une protection efficace du climat. Et fait particulier à cette association-là, c'est une association de femmes aînées, dont l'âge moyen est de 73 ans environ. Puis c'est un aspect qui est pertinent parce que ça a été vraiment beaucoup présent dans leur argumentaire. Donc, elles ont plaidé que les changements climatiques ont un effet disproportionné sur les personnes aînées, notamment en termes de problèmes de santé qui sont aggravés, puis un taux de mortalité prématurée qui est en hausse aussi chez les personnes aînées.
Mmh. C'est un regard qu'on a très peu actuellement quand on parle de changement climatique. Qu'est-ce qui fait que cette association, qu'est-ce que cette association reprochait et revendiquait à la Suisse, dis-moi?
Oui, donc dans le fond, il leur reprochait que la Suisse n'a pas pris suffisamment de mesures pour contrer les changements climatiques. Donc, à un niveau politique, sur un plan international, la Suisse est montrée très engagée, donc à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Mais concrètement, elle n'aurait pas vraiment adopté des lois suffisamment fortes et suffisamment contraignantes pour la forcer à atteindre ses objectifs qu'elle s'est fixés elle-même, dans le fond. Mais pour avoir gain de cause devant un tribunal ou devant une cour, il faut évidemment baser nos arguments sur le droit, sur les lois. Mm-hmm. Et si on prend un peu de recul, il faut savoir qu'en Europe, il y a une loi qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme, qui contient plusieurs droits et libertés de la personne, dont le droit au respect de la vie privée et de la vie familiale. Mm-hmm. Puis tu peux me dire, quel rapport avec l'environnement?
Quel rapport avec l'environnement, justement?
C'est une très bonne question. Et en fait, par le passé, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que ce droit-là à la vie privée, il incluait aussi un droit d'être protégé contre les effets négatifs des changements climatiques. Mm-hmm. Donc, les États avaient une obligation positive de faire quelque chose pour mitiger les effets sur les personnes. Donc, l'association s'est basée sur cette interprétation-là, sur cet article-là, pour dire que la Suisse est venue bafouer leur droit à la vie privée.
Tu sais, dans le milieu des médias, on parle beaucoup de décisions historiques. Tout est historique. Oui. Est-ce que c'est vraiment historique?
Oui. c'est historique à plusieurs plans. Mais d'abord, la conclusion elle-même de la Cour européenne des droits de l'homme, elle est historique. Donc, c'est la première fois qu'une Cour qui condamne un État pour son inaction face au changement climatique. Puis c'est aussi une décision historique à cause de sa portée. Donc, elle va vraiment s'appliquer à tous les États européens. Ils vont sûrement devoir revoir certaines de leurs pratiques, certaines des mesures qu'ils ont mises en place pour vraiment s'assurer de respecter ce droit-là aux individus d'être protégés contre les effets négatifs des changements climatiques.
Dis-moi, on parle beaucoup de l'Europe aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en est pour le Québec et les répercussions?
Oui, c'est la question. Donc, est-ce que ça s'applique au Québec? D'un point de vue juridique, la réponse, c'est non. Donc, c'est une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça va s'appliquer à l'Europe. Mais par contre, ça envoie un message politique qui est quand même assez fort, comme quoi les changements climatiques sont pris de plus en plus au sérieux, leurs effets négatifs aussi. Puis on voit que maintenant, les tribunaux ailleurs dans le monde commencent à s'allumer à cette problématique-là.
Est-ce qu'on pourrait avoir des actions similaires ici, dans nos tribunaux?
Oui, et en fait, c'est déjà quelque chose qui se passe. Donc, c'est un mouvement qui a été enclenché. Il y a de plus en plus de Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes qui se tournent vers les tribunaux pour essayer de faire bouger les choses un peu au point de vue, d'un point de vue environnemental. Puis en 2022, c'est un bon exemple, donc il y a eu un groupe de jeunes Québécois et Québécoises âgés de 35 ans et moins qui ont essayé de monter une action collective contre le gouvernement du Canada. Et on reprochait au Canada ce qu'on est venu reprocher à la Suisse la semaine dernière, donc que le gouvernement ne faisait pas assez pour contrer les changements climatiques. Mais nous, on n'est pas en Europe, on n'a pas la Convention européenne des droits de l'homme, mais on a deux lois, deux chartes qui s'appliquent. Il y a la Charte canadienne des droits et libertés, qui nous consacre le droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité. Et il y a la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui prévoit que tout et chacun a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Ce n'est pas une action collective qui s'est rendue bien loin. Elle n'est même pas rendue au stade du procès. Mais il y en a une autre qui a été autorisée il y a quelques mois, en fait. Puis on verra où est-ce qu'elle va nous mener.
Alors, merci beaucoup, Alexandra, pour cette chronique et ce rappel. Juste à temps pour la Journée de la Terre qui sera le 22 avril prochain. À très bientôt.
Merci.
Comme on le disait en introduction, sujet plaisant aujourd'hui, Richard?
Oui, quelque peu.
Quelque peu. Alors, Richard Goldman, tu as eu ce regard sur notre déclaration d'impôt à noter pour ceux et celles qui n'y ont pas encore pensé. 30 avril, c'est la date que vous devez retenir. Est-ce que tout le monde doit produire une déclaration?
Non, en fait, si on ne doit payer aucun impôt, on n'est pas tenu de produire une déclaration d'impôt. Par exemple, si une personne a des revenus de travail d'environ 17 000 par année ou moins, ou est prestataire de l'aide sociale, elle n'est pas légalement obligée de produire une déclaration. Mais c'est quand même très avantageux pour des personnes dans cette situation de produire une déclaration.
Pourquoi c'est avantageux, dis-moi?
Ben, en fait, il y a plusieurs avantages. Pour donner quelques exemples, pour les personnes à revenus modestes, ou à l'aide sociale, il y a le crédit d'impôt pour solidarité et le crédit pour la TPS. Pour des personnes avec des revenus de travail modestes, il y a la prime au travail au niveau provincial et l'allocation canadienne pour les travailleurs au niveau fédéral. Mm-hmm. Pour les personnes avec enfants, il y a des prestations pour enfants fédérales et l'allocation familiale du Québec. Et en plus, souvent les déductions de nos chèques de paye pour les impôts dépasse ce qu'on doit réellement payer, ce qui donne droit au fameux remboursement d'impôt.
Dis-moi concrètement, Richard, combien est-ce que les crédits d'impôt peuvent mettre dans nos poches? Est-ce qu'il y a des exemples concrets?
Oui, je pourrais donner deux exemples. Prenons l'exemple que je viens de mentionner d'une personne seule qui a des revenus de travail de 17 000 $ ou moins par année ou d'une personne qui est sur l'aide sociale. Ils auraient droit, par exemple, à un crédit d'impôt pour solidarité de 1 221 $. En termes de remboursement de TPS, ces mêmes personnes auraient droit à 325 $ par année. Et comme mentionné, il y a d'autres crédits qui peuvent s'ajouter à cela, selon la situation des personnes, par exemple, si elle a des enfants.
Alors, c'est nettement hein, à l'avantage des personnes qui ont des revenus modestes de faire leur déclaration d'impôt. On vient de le dire parce qu'il y a plusieurs avantages. Pour les personnes qui sont peu à l'aise avec les chiffres, les formulaires, où est-ce qu'on trouve de l'aide?
En fait, il y a plusieurs organismes communautaires qui offrent un service gratuit de remplir les déclarations d'impôt pour les gens à revenus modestes. Et on peut trouver plus d'infos et le lien vers la liste de ces organismes dans l'article d'Éducalois sur notre site intitulé « Déclaration d'impôt, à savoir avant de mandater quelqu'un ».
Alors, pour les auditrices et auditeurs, éducalois.qc.ca, le titre de l'article « Déclaration d'impôt, à savoir avant de mandater quelqu'un ». Et la date limite pour produire la déclaration, on le répète encore et encore, Richard?
C'est ça. C'est le 30 avril. Mais si vous ne devez pas payer des impôts, il n'y a aucune pénalité de produire votre déclaration en retard. Donc, si vous êtes une personne à revenu modeste, vous avez tout à fait intérêt à produire votre déclaration, même tardivement.
On rappelle que vous pouvez trouver la liste hein, de ces organismes qui font bénévolement les déclarations d'impôts pour les personnes qui ont des revenus modestes dans notre article sur le site d'Éducalois. Si vous cherchez d'autres informations à ce niveau, nos organismes partenaires aussi pourront vous aider. Merci beaucoup, Richard. À très bientôt.
À bientôt.
Et c'est déjà la fin d'Angle Droit. Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angledroit@commercialeducalois.qc.ca. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde ainsi qu'à Jason Paré pour la réalisation. Avec vous, Alexandra Guélil et bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis, bonne chance!
Le père du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
Sprinet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, bo boy! Sprinet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5.
FM.
faire du printemps, c'est moi. À Montréal, je rencontre des humains dont le parcours est un peu le mien et peut-être un peu le vôtre. Sur fond de hip-hop, chaque mardi de 19h à 20h sur CIBL 101.5.
La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer la société. Avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a...
Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.